A change of seasons means adventures in rain, shine, mist, or snow, or all of the above on the same day. This season, prepare for every season with the Allbirds Mizzle Collection. With all-condition traction and materials and features to keep you comfy and dry no matter what, you'll be ready for anything. Go to allbirds.com and use code FRESHSOCKS for a free pair of socks with your purchase. ALLBIRDS.com, code FRESHSOCKS.
L'âge de pierre ne s'est pas arrêté par manque de pierre. Pas plus que l'on a renoncé à la marine à voile, parce que le vent est tombé.
Rêveurs audacieux.
Cette mise en perspective à destination de toutes celles et ceux qui, pris de vertige devant les mutations en cours, pensent que la fin est proche, est un cri d'optimisme offensif.
Conspirateur positif.
Il est temps de prendre au sérieux nos rêves et d'en faire une stratégie.
Et si demain n'était pas foutu?
Bonjour, je suis Mathieu Baudin, directeur de l'Institut des Futurs Souhaitables. Vous écoutez « Dites à l'avenir que nous arrivons », le podcast des éclaireurs de Canal+, consacré à l'ère du temps, et pas n'importe lequel, puisque c'est celui qui vient. J'ai le grand plaisir de recevoir Sandrine Roudot, utopiste, perspectiviste, éditrice de livres engagés et désobéissants, auteure aux éditions de la Mer Salée de « L'utopie mode d'emploi », « Les suspendus » ou encore « Les déliés », l'aventure de cinq femmes qui décident de s'affranchir des pires pronostics en élaborant un plan de résistance citoyenne pour changer le futur. La question des liens, et notamment ceux qui nous aliènent, sujet dont nous allons discuter aujourd'hui. Bonjour Sandrine.
Bonjour Mathieu.
Alors Sandrine, tu le partages avec nous. La confiance est au cœur de toutes nos discussions en cette période d'augure. On peut souhaiter de retrouver de la confiance, en qui vous voulez, trouver quelqu'un en qui vous avez confiance. Parce qu'on doute en ce moment, on doute de l'avenir, on doute des uns et des autres. Eh bien moi, j'ai trouvé en toi de la confiance. Moi, j'aime bien échanger avec toi. J'aime bien construire les désaccords avec toi, car j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi parce que tu vas à la racine des choses. Et en faisant cela, tu nous rappelles le sens premier du mot « radical ». Dans cette émission, j'aime bien poser une question pour commencer, une conversation. Comment tu ressens l'époque ?
Alors, ça peut paraître peut-être un peu indécent, mais en fait, moi, je ressens l'époque de manière assez jouissive. Je trouve que, oui, évidemment, elle est difficile, mais elle est difficile pour des tas de gens de manière générale. Là, simplement, on est plus nombreux pour qui c'est difficile. En fait, cette époque, elle débusque toutes les illusions qu'on a pu avoir sur notre soi-disant avancée civilisationnelle où on savait tout maîtriser. Donc là, ça vient d'éclater, d'exploser en vol. Et moi, j'avoue que c'est assez jouissif pour moi de me dire, ils sont où là, les transhumanistes, en fait? Ils ont squatté tout, à peu près tous les imaginaires sur le futur qu'on pouvait souhaiter. Et là, en période de pandémie, ben, il n'y a plus personne, quoi, en fait. Donc ça, je trouve ça assez, j'avoue avec insolence, trouver ça assez intéressant. Cette époque débusque nos vulnérabilités, nos fragilités, le fait que la mondialisation nous fragilise. Et elle le fait de manière extrêmement radicale, quoi. Le jugement est sévère. Elle débusque nos démissions aussi. On a démissionné des services publics et notamment de l'hôpital. On a démissionné du fait de fabriquer localement, nationalement, ce qui devrait nous protéger aujourd'hui, comme les masques, par exemple. Et je dis pas ça parce que je me mets pas dedans. Hein. Mais moi, j'aime bien toujours être en contestation envers moi-même et envers mon époque et envers mon pays. Moi, je pense que c'est comme ça, en fait, qu'on grandit. C'est pas en regardant ailleurs et pendant qu'il fait n'importe quoi. Et en s'auto-flattant d'être les rois du monde. Donc je trouve ça intéressant. Et puis j'ai aussi beaucoup de tendresse pour ces faiblesses en fait de l'humanité. Et je me dis que c'est là qu'on va pouvoir aussi retrouver nos forces, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'on est encore là ? Qu'est-ce qui fait que on va s'en sortir ? Qu'est-ce qui fait que on grandit par-delà. Et moi, c'est cette grandeur de l'être humain en période tragique qui est vraiment quelque chose qui me fascine, en fait. Et je pense que c'est une époque qui nous convoque. Moi, ça fait des années que je ressens ça, alors, un petit côté tragédienne, mais tous les matins, je me dis qu'est-ce que je veux faire de mon vivant, quoi. Voilà. Demain, je peux mourir, demain... Donc, qu'est-ce que je fais? Et forcément, le Covid vient renforcer cette convocation. Et je pense qu'un être humain, c'est une chance d'être en vie et il faut ressentir cette convocation, en fait. Je pense que les forêts qui brûlent nous convoquent depuis des années, les espèces qui meurent nous convoquent depuis des années, les réfugiés qui meurent dans l'océan nous convoquent. Et que c'est comme ça qu'en fait, dans des périodes tragiques, il y a des gens qui répondent à la convocation, en fait, qui se réveillent, qui se révèlent. Et qu'en période confortable et hyper en paix, peut-être qu'elle serait restée dans un truc un peu, plan-plan, à consommer et à passer sa vie comme d'habitude. Alors que là, il faut qu'on aille chercher des ressources dans les périodes qui nous convoquent.
Les ressources, le Covid en a révélé une. Encore plus que les autres, c'est la ressource humaine, voire plus la richesse humaine. Parce que les transhumains, on les a pas vus, mais les très humains, par contre, ils sont sortis de tout bois. Hein. Les très humains, juste dans l'immeuble, pour aller voir comment la sage, en haut, toute seule, allait, la débrouille au quotidien, l'entraide, la solidarité. Il y a quelque chose qui a été révélé, qui a été magnifié, c'est qu'on est une société avec des individus.
Ouais, en fait, c'est tout le sujet de mon roman, hein, Les Déliés. C'est la très humanie. C'est-à-dire, quelle est cette exception humaine qui fait que dans les périodes tragiques, en fait, on se réveille, quoi. On se révèle. Et ce que ça convoque aussi, cette période, je crois, c'est notre profonde foi en l'humanité, en fait. C'est-à-dire que là, si on n'a pas foi en l'humanité, c'est mort, quoi. Puisque tout le reste est en train de se casser la figure, toutes nos croyances, tout... cette conviction profonde que les élites politiques, que les systèmes sont là pour nous protéger, qu'ils ont tout prévu, tout ça est en train de se casser la figure. Donc si on n'a pas cette foi en l'humanité, on n'a plus rien, quoi. C'est-à-dire que, tu vois, toi, tu viens de parler de la transhumanité qu'on voit émerger de partout. Il y a plein de gens qui vont te dire, qui voient que des choses terribles en ce moment. Donc en fait, il faut aller chercher cette profonde foi en l'humanité. Alors la foi, c'est pas forcément religieux, mais c'est... À la différence des croyances, la foi, elle n'a aucune raison valable. C'est une intuition profonde. Et c'est ce qui aussi me fait un petit peu peur en ce moment, c'est que le Covid, du coup, convoque des choses pas très jolies, sous prétexte, en fait, de soi-disant nous protéger. En fait, on nous infantilise énormément, on nous culpabilise les uns les autres, et donc on nous oppose les uns les autres. Et ça, il va falloir être extrêmement solide pour ne pas tomber dans ce piège. Et ce que ça convoque aujourd'hui, en fait, c'est le discernement. Et c'est la prise de recul.
Alors justement, comment on prend du recul alors qu'on est ici et maintenant au cœur de la tempête ?
Moi, j'ai beaucoup travaillé sur justement qui sont les gens qui prennent les bonnes décisions en période tragique. Ça, c'est quelque chose, c'était une obsession chez moi. Donc, j'ai étudié beaucoup les résistants pendant la guerre, tous les gens qui arrivent à prendre les bonnes décisions, quoi. Parce que des années plus tard, on se dit, oui, c'est évident, c'était ces décisions-là qu'il fallait prendre. Sauf que dans le feu de l'époque, on est très, très peu nombreux à avoir cette clairvoyance. C'est-à-dire être capable de voir par-delà le présent, par-delà la précipitation, par-delà toutes ces injonctions qui nous arrivent. Et en fait, ces gens-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'écoutent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu fais fi de tout le brouhaha, de tout le silence, et que tu arrêtes d'écouter ce que la norme te demande, ce que les autorités te demandent, ce que tous tes copains font, qui commencent à te poser problème, et que tu t'écoutes toi, en général, la réponse, elle est extrêmement claire. L'histoire prouve que les gens qui s'écoutent plutôt que d'écouter tout ce que les injonctions qui leur viennent, c'est la juste réponse. Parce qu'en fait, quand on écoute, on va dire la société, l'époque, toutes ces choses extérieures qui sont mêlées de beaucoup de croyances, beaucoup de peurs, beaucoup de tout ça. On a tendance à essayer de coller à une image. de coller un besoin de reconnaissance, un besoin d'harmonie sociale. Évidemment, personne veut être celui qui ne va pas dans le bon sens de tout le monde, parce qu'il paraît que tout le monde doit aller dans ce sens-là. Et en fait, c'est très difficile de couper ça, de couper ce besoin de reconnaissance, de couper cette image de bon petit soldat qui va protéger les autres, etc., etc. Et parce que voilà. Et c'est la même chose chez les résistants pendant les guerres. En fait, c'était très dur pour les premiers de dire « nous sommes des traîtres à la nation, en fait. On ne va pas suivre ce que notre gouvernement nous dit de faire. On va trahir, en fait. » Pourquoi on trahit ? Parce qu'on ne veut pas se trahir. Parce qu'on entend en soi une voix qui dit « ce qu'on te demande de faire n'a pas de sens. » Et en fait, cette histoire du sens, et ça, c'est passionnant, parce qu'on se rend compte que s'écouter soi, c'est toujours écouter le sens de l'histoire et le sens de l'humanité. Et qu'à côté de ça, il y a une espèce de précipitation, et tout ça, mais qui est quelque chose qui, en fait, est localisé, on pourrait dire, localisé dans le temps, localisé dans un espace d'émotion. Mais que dès qu'on décadre, et c'est là où on a besoin de recul, en fait, dès qu'on décadre, tout paraît extrêmement clair. Tu vois, si je prends aussi une autre... évidemment, tout le monde ne peut pas se mettre en recul comme Mandela. Mais par exemple, Mandela, s'il a pris de très bonnes décisions quand il est sorti de prison, c'est parce qu'il était en prison. C'est qu'il n'a pas subi tout ce que son peuple a subi pendant des mois, en fait, des années. Et ça lui a permis de garder une certaine clairvoyance. Et ce qui fait que quand il est sorti, il n'a pas appelé à la vengeance, qui était la décision la plus lumineuse et la plus juste qu'il fallait avoir pour le bien de l'humanité. Et donc on a besoin, en fait, de ces, moi j'appelle ça, de ces bulles de suspension, de se mettre en suspens à un moment donné pour voir ce qui remonte. Et ça, c'est super important pour le discernement. C'est-à-dire que voilà, on est tous agités par plein d'injonctions contradictoires, par plein de plein d'émotions. Et dès qu'on se met en suspens, c'est ce que dit un hypnothérapeute qui s'appelle François Rostin, émerge qui on est au fond. Et donc on a besoin pour cela de se débarrasser de notre identité. On a besoin de se débarrasser de ce que les autres attendent de nous, de ce que nous on attend de nous, de ce qu'on a toujours fait. Parce qu'à un moment donné, il faut se mettre en suspens et se dire « ok ». Alors il y a des gens qui se mettent en suspens par le burn-out, par exemple. Voilà. C'est à un moment donné, c'est parce que tu ne t'es pas mis en suspens avant. La suspension, c'est les cosmonautes qui, dans l'espace, Jean-Pierre a dû en parler, Jean-Pierre Gou, décadrent, voient la Terre de loin. Et tout d'un coup, l'essentiel est évident. C'est ça, décadrer, en fait.
En effet, Jean-Pierre nous en a non seulement parlé, mais partagé cette émotion incroyable pour nous la faire vivre ici, sur Terre, et pas seulement en suspension, au-delà de la stratosphère. Moi, j'ai parlé avec Edgar Morin, j'ai eu ce plaisir là, et c'est vrai que ça m'avait surpris de voir qu'il nous rappelait, il le rappelle souvent, qu'il ne s'est jamais senti aussi vivant que sous le joug de quelqu'un. Ça a révélé en lui une force de vie, une envie de vie, un désir de vie. Et d'ailleurs, il nous rappelle qu'avec ses compagnons résistants, ils ont eu besoin d'écrire les jours heureux sous le joug allemand pour savoir pourquoi ils se battaient et non pas contre qui seulement.
Mais ça, c'est super important. Derrière un nom, le nom de ces résistants, il y a un grand oui, quoi. Leur vie est au service de quoi ? Pourquoi ils se battaient ? Et tu parlais de désir, et ça, mais c'est fondamental, quoi, en fait. Le désir, c'est la puissance de vie, hein. C'est ce qui fait qu'on n'est pas, voilà, qu'on n'est pas dépressif. C'est ce qui fait qu'on va de l'avant. C'est ce qui fait qu'on a envie de grandir et de bâtir et de tout ça. Et étonnamment, oui, dans les périodes tragiques, c'est là où ce désir se révèle, en fait. Parce que sinon, finalement, on le regarde assez peu.
Et c'est Patrick Vivray qui nous rappelait que le désir, étymologiquement, c'est l'inverse de la sidération.
Exactement. Et le désir, c'est plus fort que la peur. C'est ce qui fait que tout obstacle te paraît totalement anodin.
Alors, les obstacles, ils sont nombreux. Ils sont extérieurs, ils sont aussi intérieurs, étonnamment, qu'on en ait conscience ou pas.
On sous-estime les obstacles. C'est-à-dire que pour tous les gens comme nous qui voulons... précipiter le monde d'après et on va dire nourrir, bâtir, défendre un monde meilleur, on a tendance à voir que la partie il faut bâtir autre chose, il faut donner à voir autre chose. Et en général, on oublie que oui, bien sûr, il faut bâtir, moi j'appelle ça alter bâtir, mais il y a deux piliers de plus qu'il faut mettre en place pour précipiter ce monde d'après. Il faut pas les ignorer. C'est saboter le monde d'hier. On pourrait appeler ça désaboter, puisqu'en fait, c'est un monde qui sabote. C'est un système qui sabote les êtres humains et qui sabote la planète. Donc, il faudrait finalement... C'est ce monde-là qu'on doit saboter, parce qu'il va pas nous laisser faire gentiment. Et l'autre chose, c'est s'entre-affranchir. Et c'est là où on rentre dans tous nos liens de dépendance, que ce soit des dépendances matérielles, relationnelles, techniques, qui font que tant qu'on ne se sera pas démis de ces dépendances, de ces liens, tant qu'on ne s'en sera pas affranchi, on ne pourra pas vraiment souhaiter que ce monde capote, parce qu'on y est lié. Si je prends un exemple, si effectivement j'ai mon argent dans une banque, je ne peux pas souhaiter que cette banque capote. Pas vraiment, je perds tout. Alors que fondamentalement, pour le bien de l'humanité, et si je suis cohérente avec moi-même, je devrais vouloir que cette banque capote parce qu'elle est en train de financer des projets mortifères par le monde. Donc il va falloir maintenant regarder ce que j'appelle les liens d'aliénation pour commencer véritablement à précipiter le monde d'après.
Donc Sandrine, comment on fait pour regarder lucidement, honnêtement, ces aliénations ?
Alors avant de les regarder honnêtement et lucidement, on va regarder ce que c'est que l'aliénation. Et l'aliénation, j'ai conscience que c'est un mot fort, et du coup j'aimerais revenir sur mon autre polarité, qui est l'utopie. Pourquoi ? Parce que je pense qu'un mot qui est trop fort peut créer une espèce d'ambiance de force. Et en fait, il faut les mettre en parallèle. Moi, avant de tomber sur l'aliénation, je suis tombée sur l'utopie. Donc, je suis tombée sur le désir, en fait, d'un autre monde. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il fallait se désengager. Mais c'est parce que je crois en l'utopie, parce que je suis convaincue que c'est la seule façon de changer le monde, que j'en viens à me dire, OK, si tu veux vraiment faire advenir tes utopies, il va falloir couper 2-3 liens, quoi. Et en fait, l'utopie, ça a été ma première désaliénation. C'est une désaliénation notre conception du futur, par exemple. L'utopie, c'est une conception inversée du futur. C'est se dire, je décide de ce que va être demain et j'agis. Et pas, je pars d'aujourd'hui, je tire une ligne et voilà, ça, c'est le sens de l'avenir. Non, ça, c'est du futur antérieur, en fait. C'est-à-dire qu'on est scotché sur le présent et on fait à partir de là. Donc, c'était ma première désaliénation, c'est de me dire, en fait, voilà, le futur, c'est ce que je veux voir advenir. Et c'est comme ça que le monde a toujours avancé. La deuxième désaliénation, entre guillemets, que j'ai eue, c'est vis-à-vis du fait que c'est forcément une majorité. Il faut forcément un grand mouvement majoritaire pour changer le monde. Et qui est lié évidemment au fait qu'on est en démocratie et que effectivement c'est la majorité a priori qui décide. Sauf que même si éthiquement parlant c'est compliqué à entendre parce qu'on vit en démocratie, ben l'histoire prouve que ce sont des minorités qui font avancer le monde, que ce sont 400 suffragettes devant un parlement britannique, que ce sont quelques résistants 2-3% pendant la guerre, toujours des minorités. Donc ça a été pour moi une décroyance, parce que c'est ça une désaliénation, c'est arrêter de croire à certaines croyances qui finalement régissent toute notre vie. Je me suis désaliénée aussi d'un modèle économique qui était la croissance, on me disait en fait il n'y a que ça. À partir du moment où j'ai enlevé ces croyances-là, j'ai retrouvé une puissance personnelle. C'est-à-dire que là je me suis dit ok, mais en fait il y a un endroit où moi je peux agir. Nous pouvons agir, et c'est l'endroit sur lequel je suis convaincue que c'est comme ça que le monde avance, que le monde n'a jamais avancé avec les élites qui nous gouvernent, mais ce sont bien des citoyens et des citoyennes qui font évoluer le droit, qui font évoluer nos représentations. Ça met du temps, c'est jamais dans le calme, ou rarement, mais c'est comme ça que ça marche. Et donc j'ai trouvé à ce moment-là cette force. Maintenant, si je reviens au mot « aliénation », au tout départ, en fait, l'aliénation... Alors, parce que du coup, je suis allée voir... Parce que comme à chaque fois, en fait, j'ai eu une intuition. Donc, je me suis levée un matin en 2012, je me suis dit « Mais bon sang, c'est bien sûr, c'est l'utopie. » Et depuis, je comprends cette intuition. Voilà. J'ai eu la même chose sur la radicalité. Et l'aliénation, c'est pareil. C'est-à-dire que j'ai parlé d'aliénation. Et puis, quand tu m'as dit « On va faire un podcast », je me suis dit « Mais attends, faudrait peut-être que je regarde ce que ça veut dire, en fait. » Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que d'abord, au départ, c'est céder, c'est bien. Voilà. Et puis au 18e, dans la philosophie, on dit que c'est céder ou perdre ce qui fait notre humanité par le jeu de normes culturelles ou de conditions sociales. Et le petit Robert dit même, c'est tout processus qui nous rend étrangers à nous-mêmes. C'est fabuleux, c'est magnifique. Et en plus, l'aliénation, c'est être fou, hein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'aliénation, on n'a plus aucune prise sur ce qui nous constitue notre identité, en fait, étranger à nous-mêmes. Et donc tous ces liens qui nous aliènent sont en train de nous déposséder de qui nous sommes. Et c'est exactement ce que dit Thoreau dans la désobéissance civile. Il dit, plus vous avez de choses à perdre, et moins vous prenez le risque de les perdre. Donc en fait, tout ce que nous possédons, nous possède. Et c'est ce que disent aussi les hackers informatiques, hein, ils disent un truc que tu ne peux pas ouvrir ne t'appartient pas, tu lui appartiens. J'ai Spotify aujourd'hui, en fait j'arrête Spotify demain, toutes les musiques que j'ai dans Spotify, je ne les ai plus. En fait. Je suis obligée, je suis aliénée à un service. Et c'est ça, toutes les dépendances différentes qu'on peut avoir. Alors, ce qui est intéressant aussi dans aliénation, c'est qu'il y a le mot lien. A priori, les liens, c'est hyper positif, hein, des liens. Et en fait, les liens, ça nous aliène. Dans le cas des résistants, par exemple, c'est des gens qui ont été contre la loyauté. A priori, c'était des déloyaux, en fait. Ils ont trahi leurs camarades, ils ont trahi tout un tas de gens. Et en fait, on voit que les gens qui arrivent justement à désobéir parfois quand c'est nécessaire et à prendre des bonnes décisions, ils sont obligés. Enfin, ce sont des gens qui, en tout cas, sont capables d'aller par-delà même des liens d'affection. Personne n'a envie de faire de la peine à quelqu'un qui l'aime, en fait. Donc il y a vraiment, sauf qu'à un moment donné, il faut faire de la peine parce que vous sentez que c'est juste et que c'est ça qu'il faut faire. Donc il y a les liens relationnels, il y a tous les liens de dépendance matérielle, dont je parlais de la banque par exemple, mais ça peut être les gens pour qui on travaille. Et puis ce qui est intéressant, c'est de voir voilà la cascade de nos liens, de voir ok, je dépends de ça parce que c'est, en fait, il est question de reprendre son autonomie. De s'auto-déterminer, de pouvoir prendre des décisions dont on n'a pas honte. Et pour prendre des décisions dont on n'a pas honte, il faut gérer à peu près nos liens de dépendance.
Donc, si je résume, la première chose à faire, c'est d'enlever ses croyances, c'est de faire un pas de côté par rapport à ce qu'on pense être la norme. La deuxième chose, c'est suivre son intuition, regarder à l'intérieur de nous, dans cette boussole interne, qu'est-ce qui nous fait sens. Le troisième, c'est compter sur les autres, mais pas nécessairement tous les autres. Un petit nombre d'autres, ça suffit. Se rassembler sans se ressembler. C'est d'ailleurs exactement ce que disait Margaret Mead, cette anthropologue américaine, qui nous rappelait que, qui nous invitait d'ailleurs, à ne jamais douter qu'un petit nombre de citoyens volontaires et réfléchis peuvent changer le monde. En fait, cela se passe toujours comme ça dans l'histoire. C'est la même Margaret Mead qui, semble-t-il, aurait répondu à une étudiante qui lui demandait ce qu'elle considérait comme le premier signe de civilisation dans une culture. Elle aurait répondu « un fémur cassé est guéri ». Alors pourquoi le fémur, c'est l'os de la cuisse? Si la jambe, elle est cassée dans le règne animal, vous avez quand même très peu de chances de pouvoir survivre. Parce que vous ne pouvez pas aller boire de l'eau à la rivière, vous ne pouvez pas fuir quand vous avez un problème, vous ne pouvez même pas vous nourrir. Donc ça veut dire qu'un fémur cassé est guéri, c'est la preuve que quelqu'un a pris soin de vous. Le temps de votre convalescence. En gros, aider quelqu'un à traverser la difficulté est le point de départ de la civilisation, disait Margaret Mead. Mais c'est justement cet autre qui prend soin de nous, qui nous rassérène, qui nous fait ne pas nous sentir esselés, qui est indispensable. Tu parlais des suffragettes, moi j'aime bien rappeler qu'ils étaient 300 dans le défilé des Thermopyles, 300 spartiates face à Xerxès, le roi des rois, qu'ils étaient en effet 400 premiers résistants, mais pas 10 000, pas 20 000, ils ont montré les 400 que c'était possible. C'est cette énergie-là qui a rendu possible la suite. Donc toi, tu paries sur l'individu ou plutôt sur des groupes d'individus.
Ouais, c'est hyper important cette histoire parce que on est capable d'entendre qu'une minorité négative nous gouverne, c'est-à-dire qu'on est capable de croire qu'il y a des lobbies, on est capable de croire qu'il y a 1% qui... Par contre, on est incapable d'accepter l'idée qu'il y a des minorités positives, actives, Qui change le monde ? C'est quand même assez... Alors moi, je me dis peut-être c'est parce qu'on se décharge sur les autres de le faire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, comme disent, pour paraphraser les Indiens Hopis, c'est que nous sommes celles et ceux que nous attendions. Alors évidemment, ça nous met une sacrée responsabilité. Mais cette histoire de petits groupes, c'est important parce qu'en fait, il faut trouver ses alliés. Et très souvent, on est obligé de changer de groupe. On est obligé, et c'est là où on va devoir couper des liens. Et moi, je parle souvent de l'écosystème qui, parfois, on devient une cellule cancéreuse pour son écosystème. Parce qu'on est en train de se lever pour une cause et on dérange, en fait. Parce que quelqu'un qui se lève pour une cause, quelqu'un qui dit, voilà, ce monde est un... Ne serait-ce que je vais changer ma consommation. Quand tu dis ça, tu dis, toi qui consommes normalement, tu contribues à un monde délétère. Tu le dis pas, mais c'est ce que l'autre ressent. Donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est ce que disait les suffragettes sans le dire. Elle disait, ceci est intolérable, nous ne pouvons pas voter, et pourtant, vous tous, vous le tolérez. Mais c'est hyper dur pour tous les autres, en fait. Personne n'a envie d'être quelqu'un qui collabore à quelque chose d'horrible. Donc en fait, on le prend de manière extrêmement négative. Tous ceux qui sont autour le prennent très mal. Donc en fait, il y a un moment donné où soit tu suis cette indignation parce qu'elle t'est juste, parce que de toute façon, si tu la tais, tu vas en crever. Parce que c'est quelque chose qui te fait vibrer, quelque chose qui est important pour toi. Donc à ce moment-là, il va falloir t'éloigner de tous les gens qui n'ont pas intérêt à ce que ta cause aboutisse, parce qu'elle est en train de les mettre face à quelque chose qui les dérange. Donc ils vont tous ces gens-là vont tout faire. C'est tous les gens qui te disent « Ah mais non, mais vous y arriverez jamais. » Voilà, mais t'as envie de leur dire, mais... Et oh les gars, soit deux choses, soit on y arrive et vous allez en profiter, soit on n'y arrive pas et génial, vous avez eu raison. Donc dans les deux cas, laissez-nous faire en fait. Hein ? Qu'est-ce que tu viens de dire que je ne vais pas y arriver ? Donc en fait, il y a cette histoire-là et c'est extrêmement important de trouver ses alliés et c'est des endroits de joie. Enfin, moi, j'ai trouvé de la joie à créer un auto de réparation, à trouver des gens différents que je ne connaissais pas avant, avec lesquels nous avons les mêmes indignations, mais aussi les mêmes désirs, mais aussi la même joie, mais aussi la même légèreté, la même forme de résistance, entre guillemets. Donc ça, c'est extrêmement important. Moi, je parle d'entre-soi. Souvent, on me dit, alors, c'est de l'entre-soi. Alors, tu ne veux pas parler avec ceux qui ne sont pas d'accord avec toi. Non, moi, je parle d'avec-soi, en fait. Voilà. Il y a des gens qui te font du bien. Il y a des gens à qui tu fais du bien. Ben, pourquoi s'en priver, les gars, en fait ? Mais surtout que c'est à cet endroit-là que tu recrées du désir, que tu recrées de la joie. Et la joie, c'est l'indicateur qui vient te dire « tu es au bon endroit ». Il n'y en a pas d'autre. La joie, elle est, mais pareil, radicale, implacable. Le deuxième aussi, ce que tu disais par rapport au fémur, c'est qu'on s'affranchit ensemble. C'est pour ça que je dis « s'entraffranchir ». L'idée, ce n'est pas de couper nos liens de dépendance en mode survivaliste, je vais au fin fond de je sais pas quel endroit et je marme de boîtes de conserve et tout ça. Et oh gars, quand tu n'auras plus de boîtes de conserve, tu vas faire quoi en fait ? Déjà. Et l'idée, c'est de s'affranchir ensemble. D'abord parce qu'on n'a pas tous les mêmes qualités, on n'a pas tous les mêmes compétences. C'est-à-dire que si on veut refaire un monde, on n'est pas dépendant de grosses entreprises, de tout ce système qui pourrit la planète. On a besoin néanmoins de manger, de s'habiller, de bricoler, de réparer, etc. On n'a pas tous les mêmes compétences, donc c'est intéressant de partager en fait cette compétence. Et on a perdu cette idée que moi je trouve merveilleuse, qui est cette histoire de famille humaine, quoi, en fait. Et donc on prend tous soin les uns des autres. En fait, on est tous utiles aux autres. Et ça, c'est intéressant aussi, parce que on a mis ça de côté. En fait, on voudrait pas être utile aux autres, on voudrait pas être dépendant des autres. Et tout le système actuel a fait en sorte effectivement de nous rendre indépendants. Alors on a une maison individuelle, on a une voiture individuelle. On s'est enfermé dans des trucs, on ne voit plus personne, plus de contact. Bah évidemment, c'est vachement plus facile en fait de nous rendre dépendants, puisqu'on n'a plus de liaison entre nous pour pouvoir inventer autre chose. On a besoin de se parler, on a besoin de dépendance. Si je prends les écosystèmes par exemple, pendant le Covid, ça s'est aussi un peu révélé, c'est que ceux qui s'en sont bien sortis, par exemple, ce sont des producteurs locaux, aussi souvent en bio, en AMAP. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient déjà des liens avec leurs clients. C'est un écosystème. Nous, clients, avions besoin d'eux, mais on avait déjà besoin d'eux avant, parce que le bio, il n'y en a pas tant que ça, et puis parce qu'on savait qu'il fallait les soutenir. Parce que voilà, ils sont pas aidés, etc. Donc, en fait, il y avait déjà une forme de solidarité. Il y avait une forme de dépendance entre nous. Nous avons besoin d'eux, ils ont besoin de nous. Ben, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés, en fait. Et ça, ce n'est pas sale d'avoir besoin les uns des autres. Au contraire, c'est-à-dire que comme il n'y a plus de lien, on pense qu'on n'a pas de dépendance, en fait. Effectivement, on a une appli, il n'y a rien, il n'y a pas d'humain. On n'est pas dépendant de quelqu'un derrière un guichet et de sa mauvaise humeur, par exemple. Non, mais enfin, on est dépendant d'un truc un peu plus compliqué, finalement. Et ça, mais on sait, mais on n'a rien vu, quoi. Et moi, la dépendance là-dessus qui me fait le plus peur, c'est sur le numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et notamment tout le monde alternatif, et moi la première avec ma maison d'édition, on est lié aux réseaux sociaux. Mais sauf que les réseaux sociaux. Donc on a l'impression qu'on a squeezé les autorités médias, les grandes autorités médias, qu'on s'auto, qu'on crée nos messages, qu'on a notre communauté. Et effectivement, on a notre communauté. Mais qui gère notre communauté? Qui fait que notre communauté voit nos posts? Voilà. Donc en fait, il va... Et ça, j'avoue que j'ai pas encore la solution. J'essaie de me dégaffamiser, mais c'est pas si simple. Et là, on voit à quel point on s'est mis dans ce qu'on appelle la servitude volontaire, donc une jolie prison dorée, de laquelle on a jeté la clé, puisque on ne sait même pas ouvrir ce truc pour réinventer autre chose. Donc il y a ça. Et le dernier truc que je voulais dire par rapport à ton histoire de fémur et de, parce que ça revient à cette histoire d'humanité profonde, en fait. De liens profonds. On dit l'homme est un loup pour l'homme, et en fait non. Même Adam Smith, qui est quand même le théoricien économiste de la main invisible du marché, un de ses principes, c'est la sympathie. Bon, après, avec sa langue de son époque, en fait, c'est l'empathie. C'est-à-dire qu'il fondait aussi sur sa théorie économique, avant que ça devienne un capitalisme débridé, sur le fait que les gens avaient envie d'être en société. Qu'ils avaient besoin de liens entre eux. Donc exactement ce que je suis en train de te dire. Et que c'est ça qui allait faire aussi l'offre et la demande.
Que ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient. Comment on fait quand on a fait son check-up des aliénations, quand on a envie de changer quelque chose, on commence par quoi?
Alors on commence par essayer de regarder avec lucidité ce qui vraiment nous rend dépendants, ne nous rend pas agiles, ne nous rend pas résilients. Ce qui fait que nos vies sont très liées à des décisions qui ne nous appartiennent pas. Et très vite, on commence à voir ce qui ne va pas. Soit des décisions qui ne nous appartiennent pas ou qu'elles appartiennent à des gens ou à des systèmes plus... Des systèmes, d'ailleurs, ce n'est pas des gens. Des systèmes que l'on réprouve. En fait. Et ça, c'est c'est compliqué, il faut essayer de le faire sans jugement. Exactement comme tu sais, en méditation, on te dit observez vos émotions sans les juger. C'est ça. Il faut arriver à faire ça sans jugement.
Sans être moralisateur.
Sans être moralisateur envers soi-même envers et envers soi-même. Les autres. Juste se dire, ok, s'il se passe quelque chose, moi je suis dans la panade. En fait, j'entendais ce matin à la radio en arrivant, il fait froid. Donc, faites attention, n'utilisez pas trop d'énergie parce qu'en gros, on n'en a pas assez. C'est pendant qu'il fait froid en fait qu'on en a besoin. Donc ça veut dire qu'on est dans un système qu'on ne maîtrise pas. Et moi je me dis mais attendez l'énergie couper tous les panneaux publicitaires en fait, arrêter de d'illuminer les vitrines toute la nuit. Et là on en aura. Sauf que cette décision ne m'appartient pas. Alors comment je fais? Soit je fais des pétitions et je dis il faut que on fasse voilà. C'est une possibilité, c'est une forme de résistance et il en faut. C'est là où tout est lié, le sabotage, bâtir autre chose, c'est-à-dire voilà, faire des trucs moins énergivores. Mais il y a aussi s'entrafranchir, à se dire, ok, mon énergie, moi je ne veux pas. Moi je veux pouvoir me chauffer et je ne veux pas que cette décision appartienne à quelqu'un d'autre que moi.
Dans le « Comment je fais », j'aimerais vous parler d'un rêve et de trois A. Le rêve, c'est le trépied du rêve de Patrick Vivray qu'on a eu le grand plaisir de recevoir ici dans l'émission. Le R pour « Résistance créative ». Le E pour expérimentation anticipatrice et le V pour vision transformatrice. Et les trois sont dans le même espace-temps. En gros, il nous faut faire ça pour passer à autre chose. Il nous faut être des refusants, des désobéissants, des yabasta, no passaran à l'aliénation du monde dont tu as parlé. Mais il faut aussi expérimenter ici et maintenant une partie du changement qu'on veut voir dans le monde, mettant en pratique cette phrase de Gandhi qui dit que soyons le changement dans le monde. Et la vision transformatrice, c'est le fil rouge de cette émission, c'est quelles sont les histoires qui nous permettent de changer de trajectoire. Et puis, Julien Vidal, lui, propose 3 A. Le premier A, il vous invite individuellement à abandonner quelque chose que vous faites et que vous pensez qu'il n'est plus opportun de le faire dans le monde dans lequel vous voulez vivre. Le deuxième A, c'est améliorer quelque chose que vous faites et que vous pourriez faire mieux. Et le troisième A, le dernier, c'est adopter quelque chose de neuf et de voir si ça vous plaît.
Moi, j'ai envie de revenir sur la phrase de Gandhi. Quand j'essayais de comprendre comment des gens prenaient les bonnes décisions et aussi qu'est-ce qui faisait qu'on pouvait être engagé heureux, parce que j'avais aussi cette quête-là. Et en fait, elles se rejoignent, parce qu'effectivement, quand tu ne fais pas ce check-up d'aliénation dont je parlais, le burn-out te guette, c'est-à-dire que tu t'épuises ou alors tu te renies. Et en fait, on ne peut pas renoncer à soi impunément. C'est-à-dire que c'est tellement attaché à quelque chose de plus vital en nous, nos causes, nos indignations, nos désirs, notre envie que notre monde aille mieux et que mes enfants aient un monde... voilà. Moi, ça me bouffe, en fait. Et en même temps, ça me stimule. Et en fait, on se rend compte que pour prendre les bonnes décisions et à la fois accomplir sa place dans le monde, l'idée, c'est pas de changer soi pour changer le monde. L'idée, c'est d'être le plus soi possible, en fait. Moi, il y a vraiment cette histoire-là. C'est-à-dire que les gens qui prennent les bonnes décisions, que ce soit aujourd'hui ou que ce soit pendant la guerre, ce sont des gens qui sont extrêmement proches de qui ils sont. Ils ne lâchent pas, en fait. Ils ne négocient pas sur qui ils sont. Et comme par hasard, quand tu négocies pas sur tes valeurs, tu négocies pas sur l'humanité. En fait, c'est extrêmement lié, cette histoire. Et je pense qu'il faut arrêter de dire « changeons pour changer le monde ». Il y a une espèce de fuite en avant. Comme si... Et puis, c'est du sabotage de l'être humain. C'est-à-dire que nous ne sommes pas assez bien. Il faut qu'on change. Mais non, en fait, c'est pas ça le truc. C'est qu'on a empilé tout un tas de bazar par-dessus qui nous sommes au fond, qui fait qu'on s'est rendu absent de ce que nous sommes au fond, qui est quelque chose d'extrêmement puissant, d'extrêmement juste. Et en fait, il faut se débarrasser de tout ça, de tout ce qui nous rend absent, pour retrouver cette force singulière et être le plus soi possible. Et c'est comme ça que le monde sera, quoi.
Merci Sandrine.
Merci Mathieu.
Je vous propose de prendre une grande inspiration. Je vous propose un voyage dans le temps. Je vous propose le temps d'une expérience de pensée, de dépasser le « c'est impossible » par « c'est fait » et voilà ce que ça a changé. 2040. Nous sommes là, toi et moi, en ce bord de mer que tu affectionnes depuis toujours. Un lieu de vie qui te vivifie. Il fait de ces temps qui rendent heureux, beaux et chauds. Quel plaisir d'être à tes côtés ici, à me remémorer avec toi les étapes qui ont permis une pareille bascule. Je me rappelle. Tout est parti de cette histoire d'utopie. Étymologiquement, ce lieu qui n'est pas, ou plutôt qui n'est pas encore. Nous avions en effet tous oublié que l'on pouvait inventer ou réinventer le monde. Utopie, ce fut d'ailleurs l'un des premiers mots à être colonisé comme celui de développement durable, gênant tous les deux par l'énergie qu'ils induisaient. Et plus grave encore, à l'époque, c'était tous nos imaginaires qui avaient été colonisés. C'est dans la foulée des grands bouleversements dus aux crises sanitaires des années 20-22 qu'une plateforme web a été créée, la plateforme des déliés. À la fois immense vitrine permettant de donner à voir tout ce qui se passait en termes de réinvention, mais aussi méga moteur de recherche. Et un lieu où créer des liens. Ainsi, quel que soit le problème, la cause, l'endroit où l'on habitait, le méga moteur de recherche et d'action nous trouvait une réponse, un contact, une idée. C'était un outil ergonomique et performant qu'avait réalisé Karen Bastien. De temps en temps, nous nous réunissions, ce qui permettait de développer notre bienveillance pour la cause des autres. Ça nous permettait de les comprendre, et plus encore, de mieux nous comprendre, tout en donnant à voir la force de cette biodiversité humaine. C'est à cette époque qu'a émergé la semaine du Grand Bazar. Il faut dire que les années 2022-2024 avaient été tellement révélatrices du conservatisme, de l'absurdité et de l'injustice mortifère du vieux système que cela avait explosé, ouvrant grand la porte à des moments tels que celui du Grand Bazar. À l'image des carnavals d'antan, sur une semaine, nous menions chacune et chacun nos actions, nos créations, nos actes de résistance en même temps, au même moment, histoire de faire multitude. J'en ai ainsi vu, à quelques mètres les uns des autres, coller des stickers sur les bancs quand d'autres squattaient les parkings de supermarchés pour faire des ateliers de réparation, d'autres en plein sabotage de distributeurs de boissons sucrées en collant tout simplement un panneau en panne. Incroyable moment où tout le monde allait à son endroit de résistance créative. Tous en même temps, la même semaine. Et ce qui était génial, c'est qu'on a vu que l'action de chacun, qui pouvait paraître anecdotique ou diluée, en fait, ça donnait lieu à une grande force, une grande diversité à la fois, aboutissant à un mouvement qu'il devenait impossible de contrer, tellement il se déployait de toutes parts. Alors, je pense que cette idée est tout droit issue de ton roman que tu as écrit il y a 20 ans. Comme cette autre idée avec laquelle nous vivons au quotidien depuis longtemps maintenant. En effet, quand nous nous rencontrons aujourd'hui, nous échangeons désormais à partir de ce mot de famille que chacun choisit de porter. Fini ce qui était le premier héritage, parfois lourd, à savoir son patronyme, symbole d'une identité pouvant être subie, chacun maintenant adopte un mot. Lucidité pour l'un, humilité ou suspension pour un autre, radicalité, curiosité, émotion ou émerveillement pour d'autres encore. Le mot du jour qu'avait porté en son temps Claire Michalon donnait lieu à un vaste choix de termes qui avait retrouvé justesse, sens et saveur. C'est ainsi que nous avons démarré des conversations sur quelque chose de plus juste. En 2025, quand l'intelligence artificielle arriva au pouvoir et que s'ensuivit le blackout numérique, dévastateur sur le moment mais si profondément libérateur, certains ont préféré s'extraire de tout cela, décidant de constituer les caravanes de décolonisation des imaginaires. Il s'agissait de recréer du lien entre les gens, entre les villes, puisque le virtuel ne pouvait plus le faire. À l'image des cirques d'antan, la caravane arrive, s'installe sur la place du quartier. Tout ce qui était ménagerie est devenu lieu d'atelier, de discussion, de démonstration de tutos récupérés dans d'autres territoires, dans d'autres régions, dans d'autres pays. Ces caravanes récoltent ainsi au fil de l'eau des idées, des outils et des actions, puis essaiment les idées des uns en réponse aux problèmes des autres, entremêlant le fil d'une même humanité. Et quand le soir arrive, ils s'y racontent mille histoires qui redonnent à chacun envie, désir, autonomie et créativité. Autant d'ingrédients propres à décoloniser nos imaginaires. Des soirées que je trouve magiques, qui nourrissent, qui rassérènent et qui rechargent. Je ne suis pas le seul à les apprécier d'ailleurs, vu l'effervescence qui règne autour de nous pour la préparation de celle de ce soir. Est-ce que tu la vois, comme moi, juste devant nous, cette toute jeune fille qui danse telle une elfe ? Tout est joie dans ses mouvements, tout y est poésie, alignement, grâce et légèreté. Tu la vois ?
Ouais, c'est ma petite fille. Elle transmet la déclaration de terréité et d'humanité par cette danse. C'est d'ailleurs plus qu'une danse, c'est un langage vivant, translangue. C'est un trait d'union entre tous les vivants de la Terre. Eh, vivement 2040, hein.
Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Merci à l'équipe technique, à Carole Babin-Chevet, ma co-autrice des Uchronies, et à l'équipe de CQFD.io. Si vous voulez en savoir plus sur le monde de demain et les initiatives à l'œuvre ici et maintenant, rendez-vous sur le site des éclaireurs de Canal+. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et si vous voulez partager ce moment avec nous, n'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.